Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à minuit 30, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 4, Daniel Riolo est là, les drôles de l'âme également. Elles sont là, j'accueille Julien Laurence. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Daniel Emanoussia est là également. Daniel, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel.
Polo Breitner est là, salut Polo.
Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde.
Et Edgar Groslot qui lui est au stade à Madrid en attente, parce que Mehdi Bellatia devrait venir au micro dans quelques instants. Edgar, salut. Oui,
salut Gilbert, salut tout le monde. Et effectivement, il va arriver d'ici quelques secondes, quelques minutes à notre micro.
Très bien. Bah tiens, en attendant, dis-nous un peu ce qui se dit là côté Real après le match de ce soir.
Bon, t'imagines bien qu'on parle d'arbitrage, hein, comme souvent ici.
Il parle de quoi? Il dit ah, c'est bien, on a des cadeaux.
Ils disent qu'il n'y avait pas rouge.
Oui, ils disent, enfin, ils posent la question. En tout cas, là, on a eu Valverde en zone mixte. Il y a eu la moitié des questions qui étaient sur le rouge de Dani Carvajal.
Au Real, on se dit qu'il y a un doute sur il fallait donner carton rouge ou pas à Carvajal.
Et en tout cas, c'est un sujet.
Sur l'arbitrage, ils sont malades depuis longtemps.
Ils sont complètement malades dans ce club. Mais c'est une obsession. Pour vous dire, la conférence de presse de Xabi Alonso hier, donc avant un match de Ligue des Champions face à Marseille, il y a eu, je pense, quatre questions sur les polémiques d'arbitrage de la Real Sociedad en Liga. Donc c'est un sujet qui prend 50% de la conversation. Mais ceci étant dit, Dani Carvajal qui avait le brassard, qui a 33 ans, qui a 6 Ligues des Champions, qui a toute l'expérience du monde, de prendre ce carton rouge-là, c'est quand même très surprenant, c'est quand même assez lunaire. Et ça aussi, il y a des journalistes espagnols qui ne le comprennent pas. Voilà, qui pensent que Rulli en est ajouté, c'est une chose, mais le geste de Carvajal, de toute façon, il est là. Et ça, ils le comprennent pas tous. Et maintenant, sinon, ce qui se dit sur ce match-là en Espagne, c'est surtout qu'on a senti, je pense que plus que jamais, hein, ce soir, que ce Real-là n'était pas encore complètement prêt, était encore en construction. Et on a vu 20 premières minutes où vraiment ils ont tout fait très très bien, même s'ils n'ont pas réussi à terminer. Et derrière, en fait, ils n'arrivent pas à avoir la régularité sur tout le match. On les sent un petit peu s'effacer au fil du match. Et on retrouve des travers qu'il y avait forcément l'année dernière aussi, où ils n'étaient pas tout le temps capables de faire 90 minutes, notamment en Ligue des Champions, et où ils passaient à travers d'une partie de leur match. Aujourd'hui, voilà, ce qui se dit aussi dans la presse espagnole, c'est que ce sont des survivants d'une nouvelle fois un carton rouge, même s'ils ont eu deux pénalties dans leur sens. Ça fait plusieurs fois cette saison qu'ils sont en infériorité numérique et ils ont réussi à s'emporter. Mehdi Bellatia arrive.
Très bien, s'il arrive, on va écouter ses premières réactions là et ensuite on passera bien sûr aux autres matchs du soir. C'est parti.
Rivaliser.
Oh, la déception quand même, la déception de te retrouver à la 75e, je pense, à 11 contre 10, et en pensant que tu as peut-être le match en main, et malheureusement, ça nous échappe. Déception aussi, comme j'ai dit, de, malgré les nombreuses situations que s'est créé le Real de Madrid, de subir un pénalty comme ça. C'est un petit peu dur, je ne veux pas dire que c'est un pénalty imaginable parce qu'on voit qu'il y a un contact de la main, mais le joueur il tacle, il joue le ballon, on voit bien qu'il joue que le ballon et en étant par terre, le ballon qui lui touche un petit peu la main, ça me semble très sévère. Après je peux me tromper, mais c'est vrai que perdre comme ça, c'est un petit peu rageant. Et pour les regrets, comme j'ai dit, peut-être les 30 premières minutes où on les a un petit peu, je pense, un petit peu regardés, on a un petit peu subi le fameux syndrome de Bernabéu. Un petit peu sonné et on n'arrivait pas à ressortir le ballon, ce qu'on a réussi à faire en fin de première mi-temps, et on s'est retrouvé devant le gardien, ou aussi en deuxième où ça s'est un petit peu plus équilibré. Donc il y a beaucoup de bonnes choses à garder, mais forcément un petit peu de regret au vu du résultat.
Qu'est-ce qu'on dit aux joueurs après un match comme ça pour qu'ils se remettent tout de suite dedans, qu'ils retiennent le positif et qu'ils repartent de l'avant sur les prochains matchs de Ligue des Champions?
Pour moi, de lever la tête. C'est la première chose que je leur ai demandé, de lever la tête bien haute, parce que aujourd'hui t'es venu avec un groupe où sur les 11, t'avais 6 nouveaux. Donc des joueurs qui sont comme Ben Pavard par exemple, arrivés sur la fin, au Railay, qui sont arrivés très tard, vers Meren, etc. Donc on le savait forcément, mais c'est bien de jouer le Real maintenant, parce que je pense que le Real de maintenant sera peut-être moins fort aussi que dans 2 ou 3 mois, avec les idées de Xabi, avec tout ce qu'ils vont créer ensemble. Et voilà, je pense qu'on n'a pas démérité. Moi, si je suis dans la peau d'un supporter, honnêtement, je suis quand même fier de mon équipe, fier de ce qu'ils ont donné. Les joueurs ont beaucoup couru, ils ont tout donné. On a eu des situations aussi où on aurait pu peut-être marquer un peu plus. Après voilà, il y a beaucoup de, comme j'ai dit, beaucoup de fierté quand même de ce qu'on a montré. Et on sait que, en tout cas pour la suite, pour moi, c'est de bon augure.
Justement, Mehdi, tu peux. Voilà pour Mehdi Bellatia qui rejoint à peu près ce qu'a dit l'after hein, depuis le début du match. Il aurait pu pousser un coup de gueule sur le penalty, il l'a pas fait. C'est plutôt classe. Plutôt voilà.
Oui. Bah, je crois qu'on a tous vu que c'était un pénalty cadeau. Quoi. Je pense qu'il n'y a que les supporters.
Oui, mais il aurait pu arriver en démarrant par ça. On s'est fait voler, le pénalty, etc. Bon.
Voilà. Mais moi, j'aurais pas été choqué qu'ils le disent. Après, moi, je l'ai dit dès le début. Ce péno, il est absurde. Maintenant, je pense que l'OM ne doit pas se mettre dans les conditions à ce moment-là du match pour que une telle mésaventure leur tombe dessus.
Bon, je remercie Edgar. Je te laisse aller bosser là, enfin recueillir les réactions. Et peut-être que tu reviendras un petit peu plus tard. Alors, le match totalement dingue du jour, c'était Juventus Borussia Dortmund 4-4. Polo, démarrons par toi parce que le Borussia menait à un moment dans ce match 4-2, ce qui était totalement fou. Ouais. Et ils ont réussi à se faire rejoindre. Alors finalement, qu'est-ce qu'on dit à Dortmund? Est-ce qu'on est dégoûté ou est-ce qu'on se dit que finalement 4-4 à Turin, bah,
c'était déjà, j'ai regardé le match sur des chaînes autrichiennes. Et pour confirmer un petit peu ce que vous dites, vous vous rappelez de Jan Hage Schürtoff, le Norvégien qui est proche de Haaland et qui a fait une déclaration sur le plateau sur ce qui s'est passé à Madrid, sur le pénalty dont vous avez débriefé, ouais. Et en disant « c'est marrant, mais ce match-là, il y a lieu à Marseille, contre le Real, il n'y a jamais pénalty. » Et en fait, tu payes. C'est-à-dire qu'il y a... il dit « c'est ça, le Real, en fait. » Oui,
donc c'est possible.
Donc c'est pas une question de triche ou tout ça, mais en fait tu payes parce que t'es le petit par rapport au Real.
Oui, c'est la fameuse soumission. Donc je trouve ça intéressant parce que aussi, c'est... des arbitres. Bon,
non, mais je veux dire, c'est pas juste un truc entre la France et l'Espagne, quoi, entre le Real et l'équipe française. Ouais, non, c'est qu'à l'étranger ils en parlent, ils disent voilà quoi.
Non, mais moi je trouve que t'as raison. C'est comme la façon dont l'arbitre expulse Carvajal. T'as l'impression, il dit, viens dans mon salon, on va discuter, je vais t'expliquer pourquoi. Bon, tu vois, en fait.
Déjà, il regarde quatre fois l'image, alors qu'il est évident que l'image.
Il regarde, non, mais même, t'as vu, il le prend à part et tout, il dit, viens voir mon gars et tout. Le type, il dit, non, mais je te promets, j'ai pas fait, machin, hop, mais lui, carton rouge, il dégage, quoi. Qu'est-ce que t'as besoin d'aller lui expliquer à part et tout? Mais c'est parce que c'est le Real. Parce que c'est le Real. Donc, mais oui, mais bon, ça, c'est la soumission psychologique, on appelle ça.
Alors, pour revenir sur la rencontre, faut pas oublier que t'as eu quand même 45 minutes qui sont assez navrantes et qui en faisaient sûrement le match le moins intéressant, paradoxalement, de la soirée. C'était pas un match de Ligue des Champions. Tu avais, certes, la possession pour Dortmund, mais en fait, c'était incapable de faire une occasion dans les 30 derniers mètres. Quant à la Juve, je sais pas s'il y avait encore des bulles de champagne du week-end dernier, le derby contre l'Inter, mais en tout cas, c'était assez, dramatique. Et puis,
Polo, c'était dramatique samedi aussi, hein. Son jeu, ça fait, mais ils viennent de mettre 8 buts en 2 matchs, donc tout le monde va s'emballer en Italie. Mais je sais pas si les miracles vont pouvoir se reproduire aussi souvent. Ou alors, il va falloir qu'ils montrent un autre visage. Mais moi, leur façon de jouer, et là, de 4-2, ils reviennent à 4-4. Bon, ok, très bien.
En fait, le problème, c'est que c'est un match, quand tu analyses la rencontre et la deuxième mi-temps, évidemment, c'est un match complètement fou. Mais j'ai envie de dire, c'est pour des gamins de 10 ans, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'erreurs défensives de part et d'autre que tu ne peux pas te dire que, c'est un match de spectacle, comme un bon, que tu vas voir un bon cinéma, un grand public, etc. Et le scénario fait que, du côté du Borussia Dortmund, quand tu mets 4-2 durant les arrêts de jeu et que tu te trouves à 4-4, c'est un peu la soupe à la grimace, tout en sachant, encore une fois, qu'on est dans un système où, au début de la rencontre, t'es pas persuadé que Dortmund peut aller prendre un point à la Juve, quoi. Et que le Borussia Dortmund, aujourd'hui, est dans une situation, évidemment, ils ont bien commencé en championnat, mais ils ont rencontré des équipes très faibles, le jeu n'est pas encore en place, et quand tu connais Niko Kovac et ça, et la façon dont il est méticuleux, et il demande toujours des équipes compactes, qui jouent ensemble, agressives, etc., tu ne peux pas te satisfaire de cette performance-là, parce que c'est vraiment, j'ai presque envie de dire ce soir, malheureusement, dans le système de calcul, Dortmund a peut-être perdu l'occasion de s'ouvrir une porte pour le top 8, quoi. Parce que c'était pas forcément prévu. Ensuite, t'as quand même eu des joueurs qui ont été intéressants. Je pense à Adeyemi, Guirassy, qui a fait vraiment une très belle performance. Mais défensivement parlant, c'est pas possible. Faut que Schlotterbeck revienne le plus rapidement possible. Mais en fait, ils sont vraiment bizarres parce que, à la fin de la rencontre, si tu veux, il y avait Adeyemi qui s'est exprimé, il y avait Nmechak qui s'est exprimé, et évidemment il dira c'est dommage et ceci cela, mais il n'y a pas mort d'homme parce qu'en fait ils ont pris un point dans une équipe, contre une équipe qui était peut-être plus forte qu'eux, et voilà, on est encore en début de saison. Donc, je veux dire, le problème, c'est que c'est la J2. S'ils battent Bilbao la J2, ils auront bonifié ce point-là, et puis voilà, donc c'est le système qui est un peu comme ça. Maintenant, encore une fois, Là, le décalage entre une première mi-temps dramatique, footballistiquement parlant, et ce qu'on a vu en seconde mi-temps, qui est complètement irrationnel avec la rentrée de Blažević, etc., fait que c'est bien pour le spectacle. Maintenant, moi, ça ne m'apporte rien sur les problèmes du Borussia Dortmund en ce moment, sur ce qu'ils peuvent faire et ce qui leur manque. Et d'ailleurs, encore une fois, je reviens sur ce qui s'est passé sur le plateau du autrichien. Il y avait Andreas Herzog qui était là, et donc notre copain norvégien, et ils se sont engueulés à propos du Borussia Dortmund parce qu'ils n'ont pas du tout la même analyse de la rencontre. Et il y en a un, Andreas Herzog, qui, j'ai envie de dire, très alémanique, qui dit mais où sont les leaders, vieille thématique du Borussia Dortmund depuis des années. Et puis il y a évidemment notre ami norvégien qui explique mais c'est ça le football, c'est génial, voilà. Mais globalement, c'est bien pour les gamins. Moi, je tire pas grand chose de cette rencontre, à part un point pour le Borussia Dortmund.
Daniele, vu de Turin, on dit quoi?
Évidemment, c'est mieux de rattraper plutôt que d'être rattrapé. C'est fini sur un grand éclat. Et la Juventus, elle a marqué les buts de 4-3 à la 93e minute et les buts de 4-4 vraiment à la dernière seconde de la 95e. Donc c'est resté plutôt dans l'émotion du moment. Après, ça fait deux matchs que la Juventus, elle a gagné 4-3 à la dernière seconde contre l'Inter. Là, elle a fait 4 partout. C'est bien évident qu'elle ne peut pas encaisser 3-4 buts par match ou penser de mettre 4 buts par match. Il y a du positif, bien sûr. Il y a les buts de Yıldız, qu'il est très très similaire d'un but qu'il a mis exactement, presque exactement, il y a 30 ans, Del Piero. C'était le 13 septembre 95 contre Borussia Dortmund. C'est les premières des buts à la Del Piero, comme on dit en Italie. Et donc voilà, il y a cette coïncidence que c'est assez incroyable.
De toute façon, à la Juve, tout le monde a envie qu'il lui ressemble. Le 10, on a retrouvé l'espèce de tradition d'avoir un joueur de ce genre-là à la Juve. Ils sont tous en train de rêver qu'il devienne un petit peu comme ça.
Oui,
il a beaucoup de talent.
Après, il y a cette coïncidence. Effectivement, ça fait un peu rêver. Il a quand même, je pense qu'il a participé à 6 buts dans les dernières 4 matchs.
Non, mais il est excellent en ce moment. Hein. Le fantasme, je le comprends, hein, qu'ils aient tous ce fantasme-là.
Là, il a monté en puissance depuis les mondiales du club. Ouais. Et là, à chaque fois qu'on l'attend, c'est vrai, la première mi-temps, c'était très équilibré, très ennuyante, on va dire. La Juventus, elle venait d'un match très fatigant, donc c'était aussi peut-être pour ça. Mais après, dans la deuxième période, quand Adeyemi, il a montré tout son talent, on a tous pensé, ben là, il faut que quelqu'un réponde. C'est Yıldız qui doit faire quelque chose. Et ben là, il l'a fait. La passe décisive pour Blažević aussi. Donc, c'est quand même.
Après, l'inconvénient, c'est que le jeu de la Juve, moi, je le trouve assez restrictif, là, depuis le début de la saison. Si la tactique, ça va être de tourner autour de toute l'attente de la nouvelle vedette, ça va quand même être un petit peu limité, quoi. Il faudrait qu'il y ait un petit peu autre chose aussi. Là, c'est vraiment, ça tourne autour de lui, quoi. C'est lui notre sauveur, lui notre nouveau Del Piero, lui notre 10.
Oui. Mais après, ils ont quand même arrivé à rattraper le match sans Yıldız sur les terrains. C'est Zegrova qui a pris sa place à 3 minutes de la fin. Il a même participé à l'action de but égalisateur final. Mais on comprend pas trop bien comment elle veut jouer la Juventus.
Parce qu'elle joue mieux. Avec toi, ça.
Oui, parce qu'elle joue mieux quand elle se laisse aller. Quand elle presse vers le haut, qu'Efren Turam joue beaucoup mieux. Toute la batterie d'attaquants, elle joue mieux quand. C'est une équipe offensive, on va dire.
Bah oui.
Mais elle est tellement fragile derrière. Alors, elle a pris des 7 buts qu'elle a pris dans les dernières 2 matchs. 5 buts, ils sont arrivés des frappes en dehors de la surface. Pas très loin de la surface non plus, 16 mètres, 17 mètres. Mais on commence
c'était
un peu.
C'était flagrant. Daniele, c'était ouais. Flagrant ce week-end aussi. Hein. Et moi, j'ai été bon aussi à Dortmund. D'ailleurs, le but d'Adeyemi, c'est ça, c'est exactement ça. Quoi.
Oui, Adeyemi, ouais, mais ça, c'est un peu similaire au but de Çalhanoğlu. Et on commence un peu à mettre en question Di Gregorio, les gardiens.
Et puis il y a un problème à la Juve, c'est que Polo, je sais que ce genre de choses t'intéresse, c'est que c'est tellement pas l'ADN et tellement pas la culture Juve de prendre autant de buts et d'en marquer autant. C'est pas l'histoire de ce club, c'est pas comme ça, quoi. C'est pas ça. Donc tout le monde est déboussolé, tout le monde dit ils veulent faire quoi en fait. T'sais, la Juve ne peut pas prendre des buts. La Juve, ça a toujours été l'histoire d'une grande défense, de joueurs talentueux devant dans les périodes où ils ont brillé. Il y avait toujours une espèce d'homme un peu providentiel, ou en tout cas, il y avait un collectif très rigoureux sur le plan défensif. C'est pas une équipe qui prend 4 buts à la Juve, ça n'existe pas. Et bah, peut-être que c'est nouveau. Hein. Après, on évolue hein, dans les histoires des clubs.
Hein. Bah, vas-y, Daniel,
je pense. Je pense que c'est aussi parce que la Juventus, elle vient de pire année de son histoire récente. Là, je pense que les supporters, même l'entraîneur Tudor et tout le staff, ils sont déjà contents que la Juventus elle est à ce niveau-là. Je pense qu'ils attendaient même pas que après l'année dernière, ils étaient déjà à ce niveau-là. Je pense que c'est une équipe qu'elle peut améliorer. Il faut bien sûr trouver un équilibre. Il faut bien sûr pas encaisser 3-4 buts par match. Mais il y a un potentiel là. C'est une équipe qui ne se connaît pas. Zegrova et João Mario, je pense qu'ils se sont serré la main juste avant de jouer les dernières minutes ensemble. Ils ne s'étaient jamais, eu. Donc, je pense que c'est une équipe qu'il faut qu'elle se trouve, qu'elle comprend un peu comment il faut jouer. Il faut avoir du courage quand même. C'est une équipe qu'elle doit avoir du courage.
Merci Daniel et merci Polo. On vous retrouve demain, hein, bien sûr, pour les matchs de demain soir, la Ligue des Champions sur 3 jours cette semaine. Évidemment, dans un instant, Julien, pour nous parler d'Arsenal qui gagne à Bilbao, de Tottenham qui bat Villarreal. Et puis, alors, je ne sais pas si quelqu'un.
Vite, hein, il va rester 2 minutes. Hein.
Oui, mais comme Julien, il voit tout, je sais qu'il aura un truc à dire sur Karabag, qui a gagné à Benfica 3.
Ah oui, parce que là, dis donc.
À tout de suite dans l'after.
RMC, jusqu'à 12h30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Encore 10 minutes d'after avant les nuits du Casar enchaîné qui arriveront, évidemment, ce sera comme ça désormais tous les soirs de Ligue des Champions, after jusqu'à 12h30, nuit du Casar enchaîné à partir de 12h30. Daniel Riolo est là, Julien Laurent est là, Edgar Grollo est de retour. Oui, parce que hier, dans les drôles de l'âme, Dominique, oui, sur les 4 duels anglo-espagnols de la semaine, Julien, ça ferait 4-0 pour les Anglais, bah déjà ça fait 2-0.
Voilà. Voilà, donc remballe-moi ta Liga là déjà, hein, tu viens d'arriver et tout de suite.
Ouais, enfin, la victoire de Tottenham, je sais pas si tu peux en être très fier quand même. Hein.
Ah, parce j'ai que pas tu dit crois ça, qu'il va juste... être fier de celle d'Arsenal aussi.
Ah, c'était déjà mieux Arsenal quand même à l'extérieur, ah, en plus.
C'était très 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 poussif. C'est parce que Bilbao est faiblard. Hein.
Oui, mais après ils ont résisté au début de match. Je pense qu'ils s'attendaient à un début de match un peu intense comme celui de Bilbao à domicile dans une ambiance assez incroyable et tout ça. Après ça s'est essoufflé. T'as raison.
Cette première mi-temps. Oui.
Ouais, et puis après en seconde période, il y a qu'Arsenal sur le terrain. Je crois qu'il y a deux tirs pour l'Athletic Club de Bilbao en seconde période. Ils ont un expected goal de 0,1, je crois. Et en face,
le coaching Arsenal, gagnant. Moi, j'ai regardé ce week-end, j'ai regardé ce soir. Pour moi, ça me fait pas. J'espère qu'ils vont devenir bons. C'est prévu quand à peu près?
Je sais pas. Après, quand tu as les 3 meilleurs joueurs,
intéressant à regarder.
Ouais, mais enlève les 3 meilleurs joueurs à l'équipe que tu veux en Europe et on verra s'ils jouent aussi bien après.
D'accord, ok. Non, moi c'est un argument recevable.
Mais moi j'ai trouvé que
objection
le coaching d'Arteta
retenue, objection
encore
retenue.
Non, mais... merci bon Daniel. Non mais c'est vrai que je trouve que le coaching d'Arteta encore une fois est intéressant. Et ce qui a manqué beaucoup à cette équipe là ou à ce club là les deux dernières saisons notamment, c'est une vraie profondeur de banc. Et cette fois, autant on l'a vu un petit peu en championnat déjà le week-end dernier, même si t'as raison, c'était pas non plus génial, mais et autant on l'a encore vu là, Martinelli, Trossard qui entre en jeu à l'heure de jeu ou un petit peu après et qui font tous les deux la différence. Le premier c'est plutôt bien joué en contre et le second avec un petit peu de réussite, mais voilà, c'est ça aussi qui passe. Et sans Saliba, sans Odegaard, sans Saka, c'est vrai que c'est aussi un peu plus compliqué. Mais une fois qu'ils ont su résister un peu à cette furia basque et à l'intensité dont on parlait tout à l'heure,
furia basque, ça peut être le délire non plus, hein.
Non, mais en première période, les 15, 20 premières minutes, mais comme souvent, de toute façon, à San Mamés, ils essayent de te mettre un petit peu le feu, il y a une grosse ambiance.
Moi, ce que je kiffe à San Mamés, c'est vraiment du premier rang au dernier rang, ils ont tous le maillot. Ah, ça donne un truc en termes de visuel, de couleur.
Visuellement, c'est magnifique.
C'est incroyable. Vraiment, c'est extraordinaire. Il n'y en a pas un qui n'a pas le maillot. Alors, tu sais, comme tu vois le blanc, le rouge, là, je trouve que visuellement, esthétiquement, c'est fou.
Et comme tu vois un petit peu dans les stades sud-américains, c'est magnifique.
Ouais, vraiment.
Un mot de Villarreal. Donc le gardien de Villarreal, il a fait mieux qu'Arconada en fait.
Ah oui.
Il a pas laissé passer le ballon sur lui. Il l'a mis dans le but lui-même.
Il l'a lancé dans le but lui-même quoi. Ouais. C'est un centre venu du côté et il vient intercepter, l'attraper et je ne sais pas comment il arrive à l'envoyer en arrière pour la mettre dans son propre but après 4 minutes. Bon, le pauvre, il y a eu que des plans sur lui pendant tout le match après. Mais je pense que celui qui doit être content il va pas le dire, hein, mais celui qui doit être content, c'est Arnaud Tenas, hein, évidemment, qui a été recruté par Villarreal et qui va peut-être avoir quand même une carte à jouer, hein, parce que là, c'est une sacrée performance qu'il nous a sorti quand même, hein, une sacrée erreur.
Ah, t'as coupé, Edgar est plus là?
Villarreal,
non, je suis toujours là, Gilbert.
Ah, il y a eu une petite coupure, pardon.
Villarreal, pour ceux qui l'auraient oublié, qui était entraîné par Marcelinho.
Mais comme au-delà de ça,
devant cette équipe, comme
c'était pas une totale pipe comme entraîneur. Quoi. Parfois les contextes.
Ce match-là, Julien, il y a pas grand-chose à en retenir. Il y a une frappe cadrée de tout le match. Villarreal, je ne sais même pas comment c'est possible. Ils font 10 frappes, 0 cadré. C'est un match. Le parquage était à moitié vide. Le stade de Tottenham n'était pas plein. Sincèrement, c'était pas un match de Ligue des Champions.
Il s'appelle Luis Junior, le gardien en question. Il est brésilien.
C'est ça.
Je le précise. Voilà.
Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à retenir de ce match-là. Même côté Tottenham, Thomas Frank pour sa première en Ligue des Champions, parce qu'on l'avait déjà dit dans l'émission, mais il n'a jamais entraîné une équipe qui prenait part à une Coupe d'Europe, n'importe laquelle déjà. Donc ils vont satisfaire de la victoire, mais effectivement, ce n'était pas génial dans le jeu. Ils ont à peine fait ce qu'il fallait. On a vu Kolo Muani faire ses débuts avec Tottenham.
Et Miko Tadze a joué aussi, il était titulaire.
Ouais, il a failli avoir un pénalty d'ailleurs. C'était une faute à la limite de la surface.
Il va pas être titulaire alors à Tottenham.
Bah pour l'instant c'est Richarlison.
Bah ouais, en même temps c'est vrai, la place est prise quoi.
Après, si t'arrives pas à passer devant Richarlison, il y a un problème quand même quoi. Tu vois, ça reste Richarlison. Mais pour l'instant, en tout cas, c'était ses débuts. Il est entré, il a remplacé Richarlison. Il a joué 25 minutes je crois. Il est entré à la 77e, un petit peu moins, une vingtaine de minutes.
Karabakh qui gagne à Benfica, c'est quand même une sacrée surprise ce soir.
Comment tu peux savoir que Julien a regardé ça?
J'avais un écran sur Karabakh.
Parce que Julien, il est comme ça, Julien, il voit à peu près tout, il regarde
plus,
tout.
C'est entièrement mérité, hein. Sincèrement, à part la seconde période de Dortmund-Juve.
Ça ressemble pas à Benfica, ce genre de contre-performance, en fait, c'est ça qui est étonnant.
Ouais, même si on les a vus un peu être assez exposés défensivement la saison dernière aussi déjà sous Bruno Lage. Quand t'as Otamendi en défense et que tu laisses des boulevards derrière toi, c'est compliqué. Et sincèrement, Karabakh de Zoubir, l'ancien du championnat de France, de Ligue 1, c'est en contre-attaque, ça allait très vite. Et sincèrement, ils ont les meilleures occasions, ils ont le plus de frappes dans la surface, ils touchent le poteau comme Benfica d'ailleurs. Mais sincèrement, ils ont été quand t'es mené 2-0 après un quart d'heure et que t'arrives à revenir à l'extérieur comme ça pour ta première en Ligue des Champions, franchement, chapeau, vraiment.
Zoubir, il ferait pas tâche en Ligue 1 si c'était barré.
Il a encore un bon pied.
Après une saison où il a joué à Lens en plus.
Il a encore un bon pied.
Je sais pas, j'ai aucune info sur pourquoi de Lens il est parti à Karabakh. C'est un peu un voyage un peu bizarre quand même.
C'est un beau contrat. Hein.
Oui, non, probablement.
Il y a de l'argent en Azerbaïdjan.
Je veux dire, vu ce qu'il fait sur le terrain, on l'avait vu d'ailleurs, Karabakh avait joué des clubs français récemment, et à chaque fois qu'on voyait Karabakh, et à chaque fois qu'on voyait ce joueur, on disait, le gars, il a quand même du ballon, c'est quand même un vrai bon joueur, quoi. C'est pour ça que je dis, il ferait pas tâche en Ligue 1. Tiens, si même ce genre de joueur-là, c'est pas dans notre Ligue 1, c'est pas des stars internationales, c'est un peu regrettable quand même. C'est un type qui devrait être dans une équipe de Ligue 1, ça.
Et puis l'Union Saint-Gilloise a gagné, là aussi on peut dire que c'est une demi-surprise, 3-1 tout de même au PSV Eindhoven. C'est une petite équipe quand même, l'Union Saint-Gilloise, c'est pas...
Donc c'est une surprise.
Premier match de Ligue des Champions. Oui,
c'est une vraie surprise.
Le PSV, c'est pas non plus chapeau 1 de la Ligue des Champions.
Quand même, quoi. A priori, c'est mieux que l'Union Saint-Gilloise.
Merci Julien.
Merci les gars.
À demain. Merci Edgar également.
Ciao.
Deux, trois infos pour conclure. Demain, le PSG, bien sûr. Luis Enrique a confirmé aujourd'hui qu'il voulait franciser l'effectif. Ce qu'avait déjà dit, Luis Campos hier. Bah, on lui a dit avec qui? Bah, il dit, déjà Chevalier, déjà.
Ah bon,
c'est ce qu'il a dit.
Bon, alors. Voilà. L'affaire est déjà réglée.
Il y en aura peut-être d'autres.
Ça sert à rien qu'on cherche des noms et tout.
Quelques infos lyonnaises pour vous dire que Rémi Descamps, malheureusement, s'est blessé out 5 semaines. Lui-même qui disait qu'en ce moment, il vivait le meilleur de sa vie à 29 ans, il était titulaire.
Il s'est guigné tout seul. Lyon. Comme ça, maintenant, on verra le titulaire.
Lésion tendineuse à la main droite pour un gardien, évidemment, c'est un problème. Et donc, Dominique Greff pourra.
Il s'est fait shooter dans la main, sur le but, par le joueur qui aurait dû être. Expulsé.
Exactement.
Ils ont mangé bien comme il faut, Lyon, sur ce match.
Alors justement, Lyon réagit encore. Alors, il y a eu la sortie de Louis-Jean l'autre soir du match. Lyon demande un rendez-vous à la direction technique de l'arbitrage. Ils veulent, je cite, échanger savoir plus sur son fonctionnement.
Mais ils ont déjà dit qu'ils se sont trompés.
Et puis alors, autre nouveauté. Ils n'ont pas aimé, en gros, le comportement du banc rennais pendant le match. Donc, à partir du prochain match, Daniel Congré sera sur le banc lui aussi. Et je cite Edouard, qui cite le club.
Pour chauffer le banc adverse.
Non, Il incarnera l'institution. C'est magnifique.
J'adore.
Donc, sous-entendu, ça veut dire il se laissera pas faire.
Il va chauffer. Est-ce voilà. que tu vois, il peut nous faire un revival vers Coutre des grandes années.
Et Daniel, la grosse info du soir, c'est quand même l'info que l'équipe a livrée suite au CA de la Ligue hier. Vincent Labrune, salaire divisé par 3.
Absolument. Absolument.
Il gagnait 70 000 avant euros brut par mois. Il va passer à 23 000 à partir du 1er octobre.
Oui, c'est 23 de trop. Par rapport à ce qu'il fait, c'est 23 de trop.
Il paraît que le Casar.
23 par mois pour se baigner dans sa piscine à Saint-Rémy, c'est quand même cher payé.
Julien Casar va peut-être lancer une cagnotte Litchi. On va voir, on va réfléchir. Là, mais on reviendra sur ces infos plus sérieusement, parce que Diallo s'est exprimé, on le fera demain si on a le temps, sur la façon dont il voit la réforme. C'est assez intéressant, mais là, bon, évidemment, on n'a plus le temps, il est minuit et demi. Les nuits du Casar enchaînées sont là, nous, on sera de retour demain soir. Bonne nuit à tous.
RMC jusqu'à minuit 30.
L'After Foot.